Bonjour Laurence Rossignol.
Bonjour.
La France a été une nouvelle fois confrontée au terrorisme islamiste avec l'attaque qui a fait 4 morts dans l'Aude. Un homme s'est illustré par son courage remarquable dans cet attentat, le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, qui s'est, on le sait, substitué à une otage et qui y a laissé sa vie. Un hommage national lui sera rendu. Manuel Valls, que vous souteniez pendant la primaire socialiste, s'est longuement exprimé sur le sujet hier. Pour lui, le problème, c'est l'insouciance. On passe, dit-il, d'un attentat à un autre. Attention à vouloir à tout prix vivre comme avant, alors que nous avons dans notre pays des centaines, des milliers de personnes radicalisées et que nous avons un combat qui est celui d'une guerre. Faut-il donc apprendre à vivre autrement ?
Je crois qu'il y a, si j'essaye de comprendre et d'interpréter ce qu'a dit Manuel Valls, je dirais deux choses. D'abord, il y a une forme d'insouciance qui est l'insouciance individuelle. Et fort heureusement, les Français continuent de vivre avec une insouciance individuelle. Fort heureusement, les Français continuent d'aller et venir. Et en l'espèce, les victimes du dernier attentat, qu'est-ce qu'elles ont fait d'autre que d'aller faire des actes de la vie courante ? On va pas arrêter d'aller au supermarché, on va pas arrêter de faire nos courses. Et puis ensuite, on a toujours eu en tête, et c'était quand même un des moments forts après les attentats, aussi bien Charlie que ceux du 13 novembre, que de dire que notre capacité à continuer de vivre comme avant, à vivre libre, était aussi une forme de résistance à la guerre idéologique que nous mène ce terrorisme-là. Donc sur l'insouciance individuelle, elle est indispensable. Oui. Après, je crois qu'on peut évoquer l'insouciance collective, c'est-à-dire que est-ce que on a bien pris en compte, est-ce qu'on prend bien en compte toute la chaîne idéologique qui peut mener jusqu'à la radicalisation au terrorisme? Comment on se situe par rapport, par exemple, ce que disait Manuel Valls, au salafisme? Est-ce que le salafisme...
Oui, il dit qu'il faudrait réfléchir à l'interdiction du salafisme.
Mais on veut déjà réfléchir à ce que c'est. Avant de parler de l'interdiction, déjà on peut réfléchir à sa nature. Ce que c'est une forme littérale de pratique d'une religion qui est figée dans des textes du 6e ou 7e siècle et qui effectivement, un, n'est pas compatible avec les modes de vie actuels, qui est même dangereuse pour les enfants qui sont élevés dans ces familles, qui sont extraits au monde dans lequel ils devraient pouvoir s'épanouir, et qui en plus peut conduire à une forme d'affrontement avec notre civilisation aujourd'hui. Je ne sais, mais effectivement, on n'a pas eu de réflexion assez poussée sur le salafisme et la radicalisation. Et même s'il est clair que le salafisme ne prône pas le djihad et que le djihad étant aussi en dissonance avec le salafisme, quand même beaucoup des radicalisés sont passés par le salafisme. Le salafisme est une école de la pensée. Et cette école de la pensée, il faut la, comme le dit Manuel Valls, il a là-dessus, il a pas tort, il faut pas la traiter avec insouciance. C'est pas une idéologie comme une autre qui voisine dans notre société entre diverses idéologies qui seraient un peu farfelues. Non, c'est pas des farfelues. C'est une interprétation extrêmement dangereuse des textes religieux.
Alors, lundi dernier, dans le Figaro, une centaine de personnalités, des philosophes, des enseignants, des écrivains, des journalistes, des intellectuels ont signé une tribune que vous avez peut-être lue pour exprimer leur inquiétude face à la montée de l'islamisme en France, un nouveau totalitarisme, disait-il, qui cherche à gagner du terrain par tous les moyens et à passer par pour victime de l'intolérance. Est-ce que ça renvoie à ce que vous disiez ? Est-ce qu'il n'y a pas, depuis des années, une forme d'aveuglement un peu coupable des gouvernements successifs sur ce sujet ?
Écoutez, je ne sais pas si on peut parler d'une forme d'aveuglement des gouvernements successifs. Manuel Valls ayant été lui-même Premier ministre pendant près de 3 ans la dernière séquence de ces gouvernements successifs, on ne peut pas lui reprocher d'avoir été aveugle sur ces sujets.
Peut-on mettre à son crédit que l'islamisme aurait cessé de progresser ?
Non, mais enfin, je ne pense pas non plus qu'on puisse le mettre à son débit, hein, qu'il n'ait pas cessé de progresser. Non, ce sur quoi moi, par exemple, j'ai alerté aussi depuis quelques années, c'est effectivement une extension de l'emprise religieuse aujourd'hui en France sur la pensée et les comportements des individus. Et moi, je l'avais dénoncé de ma place, qui était à l'époque celle de ministre des droits des femmes, en disant cette extension de l'emprise religieuse, elle fonctionne à plein, elle est extrêmement dangereuse pour les femmes et en particulier pour les femmes musulmanes qui sont tout le temps sommés de se conformer à des règles qui ne sont pas les règles traditionnelles de la pratique des musulmans en France et qui sont des règles qui sont importées en particulier d'Arabie Saoudite et qui aujourd'hui fonctionne contre la liberté des femmes, leur liberté d'aller et venir, voilà. Et il y a effectivement un débat qui est jamais bien mené entre une forme de complaisance à l'égard du religieux comme étant une manière identitaire de s'exprimer, de s'affirmer, et avec une cécité sur ce que la montée du religieux provoque toujours en termes de recul des libertés individuelles et en particulier des libertés individuelles des femmes.
D'un mot, sur un plan beaucoup plus technique, Manuel Valls a évoqué hier l'idée d'une rétention administrative des fichiers S les plus dangereux. Est-ce que vous y seriez favorable ?
Je ne vois pas comment on peut mettre ça en place. D'une part parce que ces fichiers S, alors c'est toujours la même mécanique. On y a un attentat, on découvre qui est l'auteur et on se rend compte qu'en fait on connaissait déjà, enfin du moins les services le connaissaient déjà, il était souvent fichier S. Et donc on dit, voyez bien, les fichiers S commettent des attentats. Mais c'est aussi la qualité du travail de nos services de renseignement qui fait qu'on les connaît. On devrait, dans un premier temps, se féliciter d'avoir des services de renseignement qui, en fin de compte, connaissent à peu près tous ceux qui sont susceptibles de passer à l'acte. Mais ils connaissent aussi beaucoup de gens qui sont dans ces fichiers, qui ne sont pas pour autant susceptibles de passer à l'acte ou dans des processus psychologiques qu'on ignore. En revanche, je me pose une question, parce que ça va être le sujet de la journée. Il y a une conférence de presse de Laurent Wauquiez, une autre de Marine Le Pen. Comme à chaque fois qu'il y a un attentat, ceux-là en profitent pour venir vendre leurs solutions toutes faites. On va avoir une journée qui va être sur incarcération, sans rétention administrative des fichiers S. Mais juste une remarque. On a déjà du mal à traiter le problème de la radicalisation en prison. On est déjà en difficulté pour comment on empêche les prisons d'être des lieux d'extension de la radicalisation et justement qui préparent au passage à l'acte. Faire des la rétention administrative, c'est-à-dire c'est rassembler ensemble les fichiers S pour les réunir, mais là encore c'est des bouillons de culture de la radicalisation. Donc je ne crois pas que ce soit la bonne solution. En revanche, c'est vrai qu'on a des services de renseignement qui identifient, qui savent bien repérer les signaux faibles, mais qui ne peuvent pas suivre tout le monde aujourd'hui. Et d'un certain point de vue, est-ce que c'est possible de suivre tout le monde 24 heures sur 24? J'en suis pas sûr.
Rapidement, Laurence Rossignol, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a présenté mercredi dernier son texte contre les violences faites aux femmes. Le projet de loi prévoit de fixer l'âge du consentement sexuel à 15 ans, de verbaliser le harcèlement de rue, d'allonger le délai de prescription de viol sur mineurs, et de mieux sanctionner le cyberharcèlement. Les associations féministes regrettent un projet de loi pas abouti et à minima. Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez?
Alors aujourd'hui, il existe déjà un seuil de 15 ans qui est le seuil de l'atteinte sexuelle. C'est-à-dire qu'une relation de quelque nature que ce soit de caractère sexuel entre un majeur et un mineur est qualifiée d'atteinte sexuelle. Notre sujet, c'est d'empêcher que l'on puisse discuter du consentement d'une petite fille ou d'un petit garçon de 11 ans parce que ce que nous voulons, c'est qualifier de viol une relation sexuelle entre un majeur et un mineur. Pour ma part, je fixe le seuil à 13 ans. C'est-à-dire que l'atteinte sexuelle, c'est effectivement pénétration ou pas pénétration. Mais quand il y a pénétration, ça doit être un viol. Mais aujourd'hui, ce que nous avons vu dans deux affaires, Pontoise et Melun, c'est que la défense a fait valoir que les petites filles étaient consentantes. Or, on ne peut pas avoir ce type de discussion. Donc, c'est pour ça que je suis pour ma part favorable à ce qu'on dise que toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 13 ans est un viol, sauf à ce que l'auteur puisse démontrer qu'il a été trompé sur l'âge de la victime, sans qu'on puisse discuter de la validité de son consentement. Et cette disposition-là, qui avait été annoncée par la ministre, par le président de la République, n'est pas dans le projet de loi. Et c'est effectivement ce qui justifie la déception des associations et aussi la mienne.
Merci Laurence Rossignol, bonne journée.